On est en ligne avec Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Alors, en Israël, de manière un peu cynique, Raphaël, on dit souvent que le plus important à regarder, ce n'est pas où tombent les roquettes, mais de là où elles viennent. Est-ce que si ça venait du nord, ça serait plus grave que si elles viennent de la bande de Gaza ?
Seulement si ça serait tiré par le Hezbollah, car au nord, il y a des factions palestiniennes dans les camps de réfugiés palestiniens du sud Liban, tels que le FPLP, qui dispose de projectiles qu'ils ont jetés rarement, mais c'est arrivé sporadiquement sur Israël. Il y a aussi une importante succursale du Hamas, qui travaille main dans la main avec le Hezbollah, mais qui dispose d'un arsenal limité, et donc un tir du nord vers Israël ne serait véritablement inquiétant que si c'était l'entrée en jeu du Hezbollah, qui dispose, lui, d'environ 150 000 missiles tout calibre.
Alors justement, on disait que le djihad islamique n'a pas de missiles de longue portée. On en est sûr et c'est pour ça qu'on s'inquiète peut-être un peu moins, Raphaël ?
Il a quand même quelques dizaines de missiles capables d'atteindre Tel Aviv. Il n'en a que quelques dizaines par rapport au Hamas qui en aurait plusieurs centaines, donc d'une portée jusqu'à Tel Aviv. L'un d'eux, d'ailleurs, aujourd'hui, a été déjoué, c'est une première, par la fronde de David et non par le dôme de fer. Donc la fronde de David, c'est un missile antimissile qui est entre le dôme de fer et les fameuses Arrow 2 et 3, missiles antimissiles incluent les missiles balistiques. Et donc ça a été une première aujourd'hui et l'un de ces missiles a été déjoué. Ceci étant dit, le djihad islamique dispose à peu près, on estime, entre 3 et 5 000 roquettes et missiles tout calibre, ce qui est moins que le Hamas, mais ce qui est quand même inquiétant. Et d'ailleurs, les petits projectiles, tels que les obus, les mortiers, sont parfois plus dangereux que les missiles à longue portée, parce que les missiles à longue portée, il est plus facile pour le dôme de fer de les intercepter, vu le temps de vol qui permet les calculs du dôme de fer pour les intercepter, alors que des obus ou des mortiers à très courte portée qui volent 2-3 secondes et atterrissent pas loin, peuvent créer des dégâts car ils sont difficiles à intercepter. Mais s'ils tombent sur une maison et que des habitants sont dedans, c'est létal.
Oui. Alors le Hamas ne participe pas officiellement, mais autorise les tirs du djihad islamique, c'est ça, Raphaël ?
Ils autorisent et les encouragent et se targuent de ne pas être dans le conflit alors qu'il y a plein. C'est toujours été comme ça, c'est-à-dire lorsque le Hamas veut ne pas faire les frais de représailles israéliennes, il laisse le djihad islamique agir et dit « Regardez, c'est pas nous, c'est eux ». Mais en fait, nous, eux, c'est pas vrai. Ils travaillent main dans la main. Ils ont le même agenda de destruction d'Israël. Ils ont le même agenda salafiste, intégriste. Ils appartiennent juste, par leur affiliation, à des mouvements un peu différents. Ils sont financés un petit peu différemment, le djihad islamique, entièrement par l'Iran, alors que le Hamas seulement partiellement par l'Iran, mais aussi par d'autres pays arabes. Ceci étant dit, moi personnellement, sur le plan sécuritaire, je mets en doute la stratégie qui consiste à tenter de dissocier le djihad islamique du Hamas, parce que d'abord, c'est pas vrai. Et secondo, c'est un petit peu dommage de ne pas frapper aussi le Hamas, qui est tout aussi coupable et qui en plus, ce qui n'est pas le cas du djihad islamique, détient en otage deux citoyens israéliens depuis des années et aussi deux corps de nos soldats de Tsahal. Donc cette immunité accordée au Hamas me semble un petit peu douteuse sur le plan stratégique, surtout qu'elle permet au Hamas donc de ne pas faire les frais de ce qui vient de se passer. C'est juste le djihad islamique qui a écopé et c'est un petit peu dommage.
Et quel rôle joue l'autorité palestinienne dans tout ça, Raphaël ? Est-ce qu'ils sont dans les négociations avec l'Égypte aussi ? On parle d'un cessez-le-feu probablement ce soir.
Oui, probablement. D'ailleurs, les Égyptiens annoncent qu'ils ont réussi à l'obtenir. Et un journal saoudien a déjà publié que les Israéliens avaient accepté les conditions de ce cessez-le-feu. Et ceci étant dit, pour répondre à votre question, eh bien, l'OLP et le régime de Ramallah, avec M. Abou Mazen en tête, n'ont plus grand-chose à dire nulle part. Ils n'ont plus aucune influence. Même pas d'ailleurs en Judée-Samarie où ce régime est devenu impopulaire auprès de la rue palestinienne. Mm-hmm. Donc ils n'ont aucune influence et à chaque fois, malheureusement, le Hamas en fait se renforce dans la popularité auprès de la jeunesse palestinienne et se renforce sur le plan stratégique et politique face à l'OLP qui, lui, s'affaiblit de plus en plus, ce qui est aussi une autre erreur au plan géopolitique des Israéliens, d'avoir laissé l'OLP s'affaiblir à ce point qu'il ne contrôle plus des zones comme Jenin ou Naplouse, et cela oblige Tsahal à intervenir alors que c'est le travail des forces de sécurité palestiniennes.
Et ça fait plus d'un an d'ailleurs, Raphaël, que Tsahal intervient tous les jours dans des endroits comme Jenin et Naplouse depuis mars 2022. Maintenant, c'est une opération qui n'a jamais cessé.
Voilà, inclus la nuit dernière où on a encore éliminé deux terroristes qui tiraient sur des soldats de Tsahal en passant en voiture. Et donc, malheureusement, cette opération de briser la vague qui dure depuis plus d'un an a porté ses fruits dans la mesure où beaucoup de cellules ont été démantelées, mais pas ses fruits dans la mesure où, comme on le voit, il n'y a toujours pas un effet de dissuasion suffisant pour que cette vague s'arrête.
Alors, les habitants du Sud ont reçu près de 100 roquettes aujourd'hui, dont une sur une maison à Sderot et une dans une école maternelle qui était vide, évidemment, puisque les consignes, c'était pas d'école et de venir chercher les enfants. L'armée a dû évacuer des milliers d'habitants du Sud. C'est vraiment traumatisant pour eux d'être une fois de plus dans cette situation.
Absolument. C'est ce dégât psychologique et mental est extrêmement grave. On n'en parle pas suffisamment, on compte toujours les morts et les blessés, mais parmi les blessés, et les blessés graves, je dirais, on doit compter toutes les personnes traumatisées, car c'est un traumatisme qui les poursuit toute leur vie. Oui. Certains, ça commence dès l'enfance, parce que ce sont des enfants qui n'ont connu que ces alertes et qui ne comprennent pas, les enfants de 5-6 ans aujourd'hui, qui vont à l'école, pas à l'école, doivent rentrer dans l'abri, sortir de l'abri, écoutent la sirène, sont traumatisés pour longtemps. On sait d'ailleurs qu'aujourd'hui, les services de soutien psychologique mis à disposition des habitants d'Israël ont été absolument débordés d'appels à l'aide, et pas seulement dans le sud du pays, même à Tel Aviv, il y a des gens qui ont subi des traumatismes, au point que les ambulances ont roulé sans faire de bruit, car le bruit des ambulances affole aussi les gens. Ça montre à quel point l'anxiété gagne certaines personnes et ça crée un dommage psychologique auprès de beaucoup de gens. N'oublions pas que durant les derniers jours, 300 000 enfants et adolescents ne sont pas allés à l'école, sont restés près ou dans les abris. 300 000 jeunes qui n'oublieront jamais ce genre d'expérience.
Oui. Alors, vous parliez de l'Iran au début de notre conversation, Raphaël. Est-ce que l'Iran a un regain de confiance et donc d'audace pour attaquer Israël en ce moment, après la réhabilitation de Bachar el-Assad et ses nouveaux amis de l'Iran comme la Russie et la Chine ?
Absolument. L'Iran est sorti de son isolement. Non seulement les Iraniens continuent de financer à 100% le djihad islamique, qui est véritablement... un proxy, un bras de l'Iran en plein Gaza, mais ils ont aussi augmenté leur aide financière au Hamas. Donc ils veulent aussi s'approprier le Hamas et que le Hamas obéisse à leurs ordres. Pour l'instant, il y a encore une petite mesure d'indépendance du Hamas dans ce sens. Le Hezbollah, lui, a d'autres chats fouettés en ce moment au Liban. Il a du mal à faire le boulot pour les Iraniens, car il est occupé par ailleurs. Mais dans l'ensemble, l'Iran se renforce de toutes parts et dans tous les endroits où il y a des proxys, au sud de la Syrie, au Yémen, les milices pro-iraniennes sévissent et se renforcent. Et donc, en plus, comme vous l'avez dit, les Iraniens ont la chance d'être réintégrés, si on peut dire, dans la région, au niveau régional, en tous les cas, politique, et d'accepter à nouveau dans les forums qui réunissent les Saoudiens, les Émirats, les Qataris, alors qu'ils étaient mis au banc. C'est d'ailleurs aussi le cas de la Syrie, qui rentre aussi maintenant dans le giron de la Ligue arabe, ce qui est évidemment extrêmement inquiétant pour Israël.
Mmh. Ma dernière question, Raphaël Jérusalem, on a dû doubler la sécurité autour de Noa Kirel, qui est donc la chanteuse qui représente Israël à l'Eurovision. C'est important aussi, mais surtout, ça veut dire que le renseignement israélien, en plus de devoir gérer tout ce qui se passe à l'intérieur du pays, il doit aussi rester très vigilant à l'international, parce que finalement, tous les Israéliens, et malheureusement, j'ai même envie de dire tous les Juifs, et on l'a encore vu à la Griba hier, sont des cibles potentielles des terroristes également.
Absolument, surtout lorsqu'ils sont frustrés, comme ils le sont aujourd'hui, de ne pas avoir tué d'Israéliens. Ils ont lancé des centaines de roquettes, mais heureusement, personne n'a été tué. Ça les frustre énormément, et les terroristes palestiniens, mais aussi les Iraniens, se tournent souvent vers les cibles à l'étranger. Ça peut être même de simples touristes. Évidemment, Noa Kirel et l'Eurovision, ça serait un coup d'éclat pour eux. Et la vigilance s'impose, mais je peux vous assurer que la division des tâches marche très bien et que le Mossad à l'étranger, avec la coopération des services de sécurité étrangers, fait très bien son travail et protège les intérêts israéliens et les citoyens israéliens à l'étranger, mais aussi effectivement pas mal d'institutions juives et de communautés juives qui bénéficient en tous les cas des renseignements que fournit le Mossad aux polices locales ou aux services de sécurité locaux pour endiguer toute possibilité d'attentat.
Merci beaucoup Raphaël Jérusalem, ancien officier des renseignements militaires, d'avoir été avec nous alors que je sais que vous êtes en plateau depuis ce matin très tôt. Merci pour votre expertise et malheureusement, on se retrouve à mon avis rapidement pour discuter de cette nouvelle crise et des roquettes en Israël. Bon courage Raphaël.
Merci, bonsoir.